8h54, mon collègue Patrick Lagacé raconte dans la presse ce matin l'histoire d'une enseignante, Katia Dufault, qui est prof depuis 1994, qui enseigne le français au secondaire. Et elle a décidé de prendre un congé sans solde. Elle a été absente pour des raisons de santé pendant quelques mois. Retour en classe cette année avec la rentrée. Et puis, fin septembre, décide que c'est terminé. Et dans une lettre ouverte et dans l'entrevue, donc, elle raconte pourquoi, décrit sa classe, décrit son univers scolaire. Et si je me fie à vos courriels, elle n'est pas la seule à se retrouver dans un environnement comme celui-là. Elle est avec nous ce matin. Madame Dufault, bonjour.
Bonjour.
Racontez-moi un peu l'élément déclencheur qui, le 27 septembre, a fait en sorte que vous avez décidé que c'était terminé.
C'est de me retrouver totalement impuissante devant tout ce que j'avais à faire ce jour-là, à gérer, là, comme vous avez pu lire dans la chronique de M. Lagacé, à gérer les ordinateurs qui n'avaient plus de piles, à gérer les élèves qui étaient déconcentrés et qui ne voulaient pas faire une dictée, pardon. Et là, c'est comme si c'est venu comme une poussée en moi, puis un malaise physique. Et là, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici?
Mais pour arriver à ce constat, il y a quand même eu une gradation. Je le disais, vous enseignez depuis 1994. Oui. Vous avez vu évoluer le système. Vous avez vu également les enfants changer, le profil des classes. On comprend que dans et ce que vous vivez, là, c'est partagé par beaucoup de profs, là, c'est-à-dire des enfants qui ont un problème d'identifier pour qui il y a un plan d'intervention, d'autres qui ont des problèmes mais qui sont pas formellement reconnus, donc il n'y a pas d'intervention. Il y en a qui sont juste pas du monde. Vous avez des classes qui sont complexes.
Oui, c'est tout à fait ça, et ça a commencé doucement. Fait qu'au début, on se disait, bon, j'ai un, deux élèves en difficulté, oui, je vais m'adapter, et puis un troisième, et puis d'autres. Et là, on s'est retrouvé avec des classes vraiment plus difficiles pour lesquelles on n'avait pas eu la formation, parce que quand j'ai commencé en 94, tous ces élèves-là avec un diagnostic étaient dans les classes qu'on appelait classes d'adapt, de l'adaptation scolaire. Donc, le titulaire de ce groupe-là avait un bac en adaptation scolaire, avait été formé pour ça. Alors que nous, on n'a pas eu de formation. Fait qu'on a vu arriver dans nos classes des cas spéciaux. On comparait ça à un médecin généraliste à qui on envoie des cas précis de cancer alors qu'il n'y a pas la formation précise pour gérer ça. Fait que c'est arrivé doucement, mais là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en 2018, les classes ne sont plus ce qu'elles étaient et les enseignants n'ont pas le bagage pour faire face à ça.
OK. Vous donnez des exemples et j'avoue qu'en lisant ça ce matin, on a pas mal tous ici sursauté, là. C'est-à-dire que vous enseignez le français au secondaire.
Oui.
Et vous avez des élèves. Et là, on regarde, il n'y a pas de nom, là, c'est sûr, là, mais on regarde la dernière année où ils ont passé les épreuves avec succès. Et là, il y a des cas de sixième année, cinquième année, quatrième année. Donc, des enfants qui ont un français de quatrième et qui sont rendus au secondaire.
Je veux pas blâmer personne, c'est sûr, surtout pas le primaire. Je sais pas comment ça se passe au primaire. Probablement qu'ils ont de la pression aussi. Il y a des études qui montrent que redoubler, c'est pas la meilleure affaire. Je sais pas où est la solution, mais moi, quand je vais arriver en secondaire 2, un élève qui a réussi pour la dernière fois son français en troisième ou quatrième année, il est trop tard pour moi pour l'aider. On peut lui donner de la ressource, on peut essayer de pallier à ses difficultés, mais la base, elle est pas là. Et l'enfant se décourage, c'est normal. Il voit pas comment il va y arriver. Alors, c'est décourageant pour tout le monde. Je sais pas où on s'en va avec cette façon de faire-là. C'est pas gagnant.
OK. 24 ans d'expérience. On sait qu'il y a beaucoup de profs qui, quand on commence, là, on fait un an, deux ans. Bref, qu'il y a des gens qui décrochent rapidement du système. Là, je me souviens d'une étude de l'Alliance des professeurs de Montréal où tu as des profs qui disaient, un, dans certains cas, hâte de prendre leur retraite, d'autres, de changer d'école ou encore carrément de quitter la profession. Là. Vous êtes l'exemple qui n'est pas bien bon à donner à des profs qui vous écoutent ce matin, qui vivent ça, puis qui se disent, bon, ben elle a sacré son camp, on n'en pouvait plus, pourquoi moi je resterais?
C'est sûr que le message que je veux donner, c'est que moi, c'est la décision que j'ai prise. Mon corps me le disait, j'avais des malaises. Pour ceux qui sont encore là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore bien dans la profession, qui sont encore capables, il y en a qui s'en sortent bien. Mais c'est sûr que mon message serait est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus là? Je voulais surtout passer un message d'encouragement et de dire aux enseignants, vous êtes pas seuls, on vous comprend. Fait que je pense que ça peut quand même les encourager à rester si la société est là pour eux.
Mais tu sais, je vois par exemple là, les échanges, les contacts que vous avez avec des parents. Quand on prend le téléphone, là, puis c'est un cas de figure, là, on prend le téléphone, on appelle un parent pour lui dire, écoutez, il a pas réussi telle épreuve, j'aimerais ça vous rencontrer, puis que l'accueil qu'on reçoit, c'est de se faire engueuler pratiquement, puis de se faire dire, c'est pas mon problème, c'est le tien, là.
Ouais.
Ça, c'est le genre d'appel que vous aviez à faire, puis le genre de réponse que vous receviez.
Oui, oui, puis ça arrivait aussi lors des rencontres de parents. Un parent qui s'assoit devant nous, j'en ai eu un parent l'année passée qui s'est assis pour me dire à quel point elle n'était pas contente de la façon dont j'avais entouré son enfant. Et là, on se fait attaquer, vraiment. Et là, souvent, on fait ces appels-là, ces rencontres-là avec un témoin, avec quelqu'un qui va nous appuyer puis être capable de dire aux parents, je pense que là, on a fait le tour ici, vous devez maintenant vous adresser à la direction. Fait que c'est sûr que on s'attend à ça, malheureusement, à ce que les parents soient contre nous. Ils sont comme des clients. Je sais pas si vous voyez.
Oui, non, mais écoutez, je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un courriel l'autre jour d'un parent qui m'écrit pour m'expliquer. C'est au primaire, là, par contre, mais son enfant n'a pas passé le test avec succès. Et que lui, sa réaction face à ça, c'est que c'est le prof qui est responsable parce que si son enfant a échoué, c'est que le prof lui a mal enseigné la matière, s'est pas assuré que l'enfant était prêt, et que donc c'est le prof qui est responsable, puis c'est le prof qui est incompétent.
Ça revient à nous. C'est pour ça qu'on est vraiment des soldats de première ligne. Les parents attendent beaucoup de nous. Les directions, c'est sûr, ont des commandes, la commission scolaire, tout ça. Mais nous, on est face à des enfants, à des humains qui font souvent leur possible. Mais là, la faute revient à l'enseignant parce que, peut-être, madame, votre cours est pas assez intéressant ou parce que mon enfant doit être assis en avant. Si vous saviez le nombre de parents qui me disent « Mon enfant doit être assis en avant, mais j'ai 6 places en avant. » J'ai 10-12 parents qui veulent que leur enfant soit dans le premier rang. Fait que souvent, c'est ça, les attentes sont trop élevées devant les profs. Je pense que les gens ne peuvent pas s'imaginer c'est quoi être devant une classe puis avoir à gérer tous ces enfants-là en même temps. Eux, ils en ont un ou deux à la maison. Nous, on en a 33.
Mais gérer des cas de plus en plus complexes, c'est ça aussi qui fait partie de la réalité. En terminant, pour illustrer, je pense que c'est une image, mais ça veut dire beaucoup, là. Votre frigo dans votre classe qui sert à ranger des livres, puis c'est un frigo, donc, qui était défectueux, puis vous l'avez pris parce qu'il n'y avait pas d'autres meubles disponibles?
C'est un collègue à moi, en fait. Je partageais le local d'un collègue, et puis il m'avait dit ça au début de l'année. Il disait « Ah, les manuels, on va les mettre dans le frigo. » Je pensais que c'était une blague. Puis en arrivant dans la classe, il y avait vraiment un frigo, vieux modèle, congélateur en haut. Et puis c'était pour ranger les manuels, parce que si on veut une armoire dans notre classe, il faut la payer de notre poche. Fait que lui, il a trouvé un vieux frigo, j'imagine, puis ça faisait l'affaire.
Allez-vous revenir à l'enseignement ou votre décision finale est prise?
C'est pas final. Ça me fait beaucoup de peine de quitter. Je pense sincèrement que je suis une bonne enseignante. Mes élèves me l'ont dit souvent. J'ai été quand même chanceuse. C'est pour ça que je suis restée 24 ans. Je ferme pas la porte totalement, mais il faudra que je guérisse mes blessures.
Merci beaucoup, Mme Dufault.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Katia Dufault, enseignante depuis 24 ans. Donc, en congé, sans solde. Et je regardais les réactions ce matin. Il y a pas mal de profs qui se reconnaissent. Les profs ne prennent pas les mêmes décisions pour toutes sortes de raisons. Mais je donnais l'exemple en mathématiques. T'sais, quand un enfant réussit pour la dernière fois en troisième année puis qu'il est rendu en secondaire 1, secondaire 2, en mathématiques, c'est dur de se rattraper. Ce n'est pas de jugement à porter, c'est un constat qui est fait quand même sur une réalité qui consiste à faire avancer les enfants, même peut-être quand ils ne sont pas prêts. Puis c'est peut-être mieux. Peut-être que de redoubler, c'est pas la meilleure affaire. Mais en même temps, le retard s'accumule année après année. 9h04.